Bonsoir, monsieur Mermet. Je viens d'entendre votre émission. Moi, pendant les 3 minutes, pauvre prêtre orthodoxe, j'avais prié pour les terroristes. Et j'ai été heureux d'entendre un peu de liberté sur cette antenne. C'est la première fois que j'appelle une station de radio. Vraiment la première fois. Et je vous remercie pour votre travail. Merci beaucoup.
Alors, je vais vous dire, je vous parle de l'étranger. J'ai un familier qui est disparu dans les ruines de l'attentat de New York. Alors je vous dis, votre programme est vraiment obscène. Est vraiment obscène. Je suis quelqu'un de gauche, mais entendre ça, c'est incroyable. Toutes les frustrations du monde, tous les ressentiments, tout ça, c'est la faute des Américains et ça justifie le terrorisme le plus minable. C'est incroyable, en fait, vous pouvez me répondre avec des nuances. Vous faites un programme obscène, c'est tout ce que j'ai à dire.
Mermet, je t'aime. Ça fait du bien de t'entendre après une semaine de flash spéciaux à répétition pour nous répéter en large et en travers. Ils n'en savent pas plus que la veille.
Voilà, je souhaite déjà m'exprimer sur une chose, c'est que je fais mes infos comme tout le monde et j'entends à la radio publique des gens qui se félicitent de certains comportements, félicitent des hommes comme Ben Laden, etc. C'est déjà affligeant, mais alors puisqu'on est dans une époque de liberté, je tiens à dire aussi que moi, ce n'est pas le monde dans lequel j'ai voulu élever mes enfants. Que moi, j'ai toujours essayé de dire à mes enfants que rien de ce qui est humain ne doit leur être étranger. Maintenant, en face de nous, il y a des gens qui, à mon avis, ont perdu leur dignité humaine en agissant comme ils le font et ne méritent plus le traitement qu'on réserve d'habitude aux êtres humains. Merci.
Bonjour, je m'appelle Micheline, j'ai 68 ans et je suis vraiment très contente d'entendre les témoignages de l'émission de Daniel Mermet. Je finissais par avoir l'impression d'être anormale, vu la dose de, disons, de d'infos qu'on avait, que c'était excessif. Bravo France Inter.
Voilà, des messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37. Très, très nombreux messages. J'avoue qu'on est un peu débordé avec Christophe. Aujourd'hui, on va passer cette heure avec Christophe de Pontfilly, qui est journaliste, qui est reporter, qui est cinéaste, et qui a été, qui est toujours, on peut dire, l'ami de Massoud, dont le film Massoud l'Afghan sera diffusé jeudi à 20h50 sur Arte et qui est diffusé à partir de demain mercredi au 3 Luxembourg à Paris. Et puis nous parlerons aussi avec Mastan Merabodine qui est le chargé d'affaires de l'ambassade d'Afghanistan. Mais il y a d'abord vos messages très très nombreux, je le répète, qu'on essaye de classer, enfin, dont on essaye de sortir ceux qui sont le plus significatifs au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour Daniel, merci pour tout ça. Je voudrais simplement te dire que je ne doute plus que l'homme a une capacité extraordinaire pour s'autodétruire, mais la petite réflexion que je voudrais t'apporter, c'est que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont commercialiser des morceaux de gravats. J'en suis pas certain, mais il y en a qui vont y penser fortement.
Surtout ne pas penser. Jusqu'à ce que les F-16 décollent, restez divertis. Irak, Kosovo, Palestine, Afghanistan. Chaque conflit récent nous a imposé un rétrécissement du temps. Comme si tout à coup il devenait obscène de penser au-delà du mois dernier. Comme si tout recul était une fuite vers l'ennemi. Qu'est-ce qui mène à l'invasion du Koweït? Qu'est-ce qui se passe avant le nettoyage ethnique? Que vit-on avant l'intifada? Qui a créé Ben Laden? Ne pas penser. On ne peut pas laisser dire ça, répondent les animateurs de débats radiophoniques. On ne peut pas penser au-delà des tours qui s'effondrent. On doit oublier tous les appétits sur l'Afghanistan. Pourtant, si on faisait taire les télés, on se rappellerait que l'Afghanistan est un passage nécessaire pour transporter le pétrole de la Caspienne et du Kazakhstan vers le Pakistan et ses ports. Le Kazakhstan, c'est un quart des réserves mondiales de pétrole. Les compagnies américaines, celles-mêmes qui ont financé l'élection de Bush pour 1,8 million de dollars, y sont implantées. Bush, et surtout son vice-président sont eux-mêmes issus de l'industrie pétrolière. On se rappellerait que la CIA de Reagan et de Papa Bush a formé Ben Laden et soutenu les talibans. On se rappellerait qu'en 95, je crois, pour un projet d'oléoduc qui devait rapporter 100 millions de dollars par an aux talibans, la compagnie américaine Unocal, par ailleurs partenaire de Total en Birmanie, invitait 4 dignitaires talibans à Houston et les recevait comme des chefs d'État. Empressé, Unocal vient de donner 100 000 dollars pour les victimes de l'attentat du World Trade Center. Bonne opération de com. L'État américain avait donné 48 millions de dollars aux talibans contre la promesse d'avoir éradiqué la drogue. Autre bonne opération de com. Alors on bombardera l'Afghanistan, peine de mort planétaire, pour conjurer et divertir. Y a pas à dire, un F-16 qui décolle, ça défoule. Les civils n'auront bien sûr pas le même poids, mais n'en parlons pas. On sortirait nos yeux des tours. De toute façon, que l'Occident sacré bombarde ou pas, la riposte est déjà là. Les réfugiés s'amoncellent par milliers au Pakistan, comme sur bien des frontières du monde, mais comme jamais dans Manhattan. Combien de ces réfugiés ont leur licence de pilote? Aucune importance. Ne pas penser. Bien sûr, aucune attaque militaire ne résoudra rien. Parce que si c'était le cas, les F-16 fonceraient sur les sièges du local et de la CIA.
Oui, bonjour, France Inter. Oui, allô? Allô? Oui, j'interviens s'il vous plaît au sujet de l'émission que vous faites. Je suis outré de tant de haine et de cynisme et d'arrogance contre l'État des États-Unis. Je suis plein de compassion pour les Américains aujourd'hui, car ils ont une circonstance atténuante, celle d'être un peuple jeune sur la planète. Et quoi qu'ils aient fait comme erreur dans leur histoire, tout le monde a oublié les erreurs et le cynisme et l'arrogance de l'Europe qui a colonisé beaucoup de ces pays, qui les a esclavagés, qui a profité et qui a exploité ces pays-là, qui les ont laissés après tomber, n'est-ce pas? Et puis qui continue pourvu que l'Europe ait son confort pour rouler en voiture à cause du pétrole. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à condamner que les États-Unis. À ce moment-là, c'est là que je parle de cynisme. Je suis désolé, l'Amérique ne mérite pas ce qu'elle vient de subir.
J'écoute tes émissions de temps en temps, je les trouve des fois un peu excessives, mais enfin ça fait rien. Bon, suite à ce qui s'est passé, je trouve que c'est inadmissible, mais ceci étant, j'ai pas entendu beaucoup parler de l'ONU et de ce qu'elle doit faire, et secondo, je voudrais signaler qu'un État voyou a fomenté un putsch au Chili le 11 septembre 1973, suivez mon regard, et c'est pas de l'anti-américanisme primaire, mais il faudrait quand même rétablir les choses un petit peu. Salut!
Bonjour, je suis Danielle Arnaud de Bordeaux. Je téléphone au sujet de ce qui s'est passé en Amérique. Je suis en vacances ici. Je suis un peu en colère parce que depuis 8 jours, il y en a ras-le-bol. Je vois qu'il n'y a jamais eu aucune compassion pour le Rwanda, aucune compassion pour le Zaïre, aucune compassion pour le Congo. Il est vrai que l'Afrique, sans les Africains, il vaut mieux. Silence, complice des Américains et de l'Europe. La CIA fait assassiner Malcolm X, pasteur Martin Luther King, assassiné. N'est Patrice Lumumba de Che Guevara. Pas une minute de silence. Nulle part. Pour l'Amérique, ça fait 8 jours qu'on couche, qu'on dort, qu'on mange avec le E. Il y en a ras-le-bol. J'ai beaucoup de compassion pour le peuple, mais pas pour les hommes politiques et pour ceux qui font que du business, fric, au détriment du peuple, des peuples du monde entier. Moi, je suis une Française. Je vis avec 15 francs pour survivre. Au revoir.
J'habite Arles et un livre de condoléances a été mis en place dans le hall des pas perdus de la mairie. J'ai pu lire beaucoup de condoléances, beaucoup de solidarité à l'égard du peuple américain, mais j'ai lu aussi des phrases qui m'ont fait chaud au cœur. Exemple, de tout cœur avec le peuple palestinien, écrit sur ce livre, hein, de tout cœur avec le peuple palestinien, victime de Sharon. Merci Daniel Mermet d'avoir repris vos émissions. À bientôt.
Bonjour. France Inter est en direct de New York. Eh oui. J'attends encore. Peut-être que France Inter va être en direct de Grozny, en Tchétchénie. On ne sait jamais. Tout peut se produire.
Bonjour Daniel. Les antimondialistes ont perdu. La mondialisation a été effective pour les capitaux, pour les marchés, pour les marchandises, pour tout, et maintenant pour le terrorisme. Ça y est, avant c'était réservé au pays du tiers-monde le terrorisme. Et maintenant, ça y est, la terreur est revenue dans l'autre sens. Finalement, les événements du 11 septembre me paraissent être le parachèvement de la mondialisation. À bientôt, Daniel.
Juste un grand merci pour cette émission. Après toutes les informations qu'on a entendues, primaires qui nous faisaient du mal, merci pour cette émission, qui n'est pas une émission simpliste, qui est une émission où le raisonnement est là, où ça me fait du bien. Merci, merci, ça me fait du bien. Au revoir et merci. Richard Avignon.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, avec Christophe de Pontfilly et Mastan Merabodine, Massoud l'Afghan.
Flight number 2, arriving from New York.
Bonjour, c'est Marina de Paris. Voilà, donc, puisqu'en France, on a décidé qu'on était tous américains, moi, je veux bien comme ça pour l'idée, mais moi, j'ai décidé que j'étais massoudienne. Quand Massoud est mort, vraiment, enfin, quand on a su qu'il était vraiment mort, j'ai vraiment pleuré. Pourquoi on n'en entend pas plus parler dans la presse, puisque je n'ai pas la télé. Pourquoi également on ne parle pas plus des victimes dans d'autres contrées, dans d'autres pays que les États-Unis. Moi, je reste sceptique. Je suis pro-victime, mais je ne me sens pas américaine. Voilà.
Mon message est le suivant. J'ai 23 ans et je suis sensibilisée au combat d'Ahmed Shah Massoud depuis quelques années déjà. Il y a un an et demi, j'ai vu Massoud l'Afghan, le film à Aix, en Provence, en présence de Monsieur de Pontfilly. J'avais vraiment envie de prendre le micro et de lui dire merci pour son témoignage. Je me suis abstenue, j'avais peur d'avoir l'air bête dans cette société un peu citadine aussi, refermée sur elle-même. Il y a 5 mois, Ahmed Shah Massoud a fait le déplacement à Paris, déplacement dangereux. L'ironie de la situation m'a serré le cœur véritablement. Je ne m'étendrai pas sur ma tristesse. Je pense à la veuve, aux enfants d'Ahmed Shah Massoud et aux Afghans affamés et jetés sur les routes. J'en ai assez marre d'en parler depuis si longtemps et d'assister au désastre sans rien faire. Il est véritablement temps d'amener de l'aide à ces populations. Je vais chercher une ONG. Je pense que il faut qu'on se mobilise maintenant et partons un peu aider ces populations en difficulté. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Patrick Simon, j'appelle des Deux-Sèvres. Et je voulais dire mon grand chagrin pour la mort de Massoud en Afghanistan et adresser mon profond soutien et ma profonde amitié à Christophe de Pontfilly, qui l'a rencontré si souvent et qui doit être très triste à l'heure actuelle. Merci, au revoir.
Pascal de Montpellier. Hier, j'ai appris la mort de Massoud. J'aimerais lui dire ces quelques mots. Massoud, commandant Massoud, tu symbolisais pour tout un peuple martyrisé le courage et l'obstination. Dans tes belles montagnes afghanes, nos démocraties friseuses n'ont pas levé le doigt pour t'aider. Honte à nous, hommes occidentaux du 21e siècle, gavés de bœufs aux hormones, de CAC 40 et de tomahawks inefficaces. Maintenant que tu es parti, peut-être va-t-on se réveiller. Ta cause était noble et juste à ton image. Puisse-t-elle te survivre. Tu resteras dans nos mémoires. Merci.
20 ans, ça fait 20 ans, Christophe de Pontfilly, que vous avez rencontré pour la première fois celui que ses auditeurs, beaucoup de voix jeunes, hein, beaucoup de voix jeunes, appellent familièrement Massoud. Vous avez fait beaucoup de voyages là-bas, vous avez côtoyé Massoud, et vous êtes là aujourd'hui, vous n'avez pas assisté à l'enterrement, aux funérailles de Massoud. Qu'est-ce que vous ressentez? Pourquoi vous n'êtes pas là-bas?
J'ai surtout assisté à l'enterrement de la raison dans notre pays qui devient fou, avec des médias qui sont de plus en plus incroyablement attirés par le spectaculaire, avec un espèce de jusqu'au boutiste de la guerre. Et j'étais aux États-Unis il y a quelques jours, c'est la raison pour laquelle je suis là en retard en France, et que j'ai envie de rester en France pour parler, et pour qu'on parle des Afghans, de ces Afghans qui nous ont si touchés lorsqu'ils ont tenu tête aux Soviétiques, alors que tout le monde pensait qu'ils n'avaient aucune chance face à cet envahisseur. Et Massoud était un homme très précieux. Il n'a jamais été écouté en Occident. Il n'a jamais été soutenu. Et au contraire, d'ailleurs, les Américains ont soutenu ses ennemis. Et ça, je trouve qu'il faut le rappeler. Et à l'heure où les Américains se préparent à lancer leur riposte sur un ennemi extrêmement insaisissable, eh bien, j'espère qu'ils ont fait l'effort d'aller voir ceux qui savent exactement le terrain et qui connaissent le terrain. Moi, je n'ai pas été consulté par les Américains. Aucun des Français qui connaissent bien l'Afghanistan n'ont été consultés par les Américains. Et j'ai peur qu'ils ne se servent pas vraiment des erreurs qu'ils ont fait dans le passé pour être meilleurs dans le présent et ne pas nous entraîner dans un futur dramatique.
Mastan Mehrabeddine, vous êtes chargé d'affaires à l'ambassade d'Afghanistan en France, à Paris. Vous êtes afghan.
Tout à fait, je suis afghan, bien sûr.
Vous êtes afghan, et aujourd'hui, l'Afghanistan, c'est l'État voyou, c'est le pays voyou sur lequel se dirige toute l'envie de revanche et de vengeance. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, afghan, ici ?
Deux choses, une précision très importante que je dois apporter aux éditeurs. Je suis afghan, je représente l'Afghanistan à l'ambassade d'Afghanistan, mais je ne suis pas taliban. Je ne représente pas les talibans et nous nous battons contre les talibans et les terroristes de type Osama Ben Laden depuis 7 ans. Et depuis 20 ans contre l'envahisseur soviétique. Donc je représente cet Afghanistan-là, l'Afghanistan libre, dans laquelle il y avait commandant Massoud et dans laquelle il y a beaucoup d'autres Afghans qui résistent, qui mènent la résistance. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un problème qui se pose dans les médias. On dit Afghanistan, on dit même pas taliban. Donc dans le temps, on parlait un peu des talibans. À la télévision, je n'entends que ça. L'armée afghane, l'Afghanistan, l'islam, on mélange tout. On mélange Osama Bin Laden avec l'islam, on mélange les talibans avec l'Afghanistan. Alors que le véritable problème est autre chose. On a créé un monstre. Enfin, ce monstre a été créé par les Pakistanais, bien sûr, avec l'argent saoudien et avec l'appui des Américains, de la CIA, pendant des années. Depuis 20 ans, en fait, ça s'est passé sous notre yeux. Et nous, on a tout le temps répété, nos amis, quelques rares amis qui venaient nous voir, qui sauf par exemple et d'autres, on a essayé de faire passer le message que la situation était extrêmement dangereuse. Et quand le commandant Massoud était venu à Paris, au mois d'avril, son principal message était la suivante, que si vous nous aidez pas aujourd'hui, si vous nous aidez aujourd'hui, on peut encore arrêter ces terroristes. Si vous nous aidez pas, demain ça sera trop tard et vous aurez des surprises que vous pouvez pas imaginer. Malheureusement, on n'a pas été écouté. Et aujourd'hui, on est face à un problème qui dépasse largement l'Afghanistan. Et la racine de ce mal, qui est le terrorisme islamiste, est au Pakistan. On ne parle jamais du Pakistan. Le Pakistan a joué un double jeu depuis 20 ans. Et les Américains n'ont fait qu'écouter les Pakistanais. Mmh. Ils ont soutenu Ekmatyar parce que les Pakistanais leur parlaient d'Ekmatyar. Mmh. Et maintenant, ils soutiennent les talibans. Enfin, jusqu'à l'heure actuelle, ils ont soutenu Ekmatyar parce que les Pakistanais leur disaient de soutenir les talibans.
Christophe de Pofilly.
Ekmatyar, Gulbuddin Ekmatyar, était le leader d'un parti qui s'appelle le Hezbi islamique, qui était un des plus fondamentalistes de la composante de la résistance afghane, et qui pendant 12 ans a reçu le soutien des services secrets pakistanais et de la CIA. Et c'est lui qui, lorsque Massoud est entré avec ses hommes dans Kaboul en 92, n'a pas supporté de ne pas avoir le pouvoir et a fait bombarder la ville à coups de roquettes. Il y avait jusqu'à 2000 obus par jour qui tombaient dans cette période, et ça a lancé la guerre civile, la guerre à l'intérieur de Kaboul.
Christophe, on va évoquer et Massoud, et on va essayer avec le peu de temps qu'on a avec vous deux d'essayer de comprendre tout ça. On vit des heures tragiques, mais pour des journalistes comme vous qui aimez le vaste monde et qui est un journaliste un peu marginal, un peu en rupture, famille dans laquelle je me trouve personnellement.
Nous aimons les hommes.
C'est un moment assez je dirais à quelque chose malheur et bon. C'est un moment stimulant parce que tout d'un coup ces causes, ces pays, ces conflits, ces guerres, ces malheurs auxquels nous intéressons et que nous essayons de raconter, tout le monde s'y intéresse. Il y a une fièvre de comprendre, d'apprendre, d'être informé en ce moment qui est quelque chose d'heureux, en espérant que cette fébrilité se transformera en véritable intérêt.
कुदरत से ही तेरी तुझे पहचान लिया है, छुप कर भी तेरा राज जमाने पे आया है, बिन देखे तुझे सबने खुदा मान लिया है। अल्लाह
En 80, Ahmad Shah Massoud avait 28 ans. Il me faisait penser à Che Guevara. Jérôme lui trouvait qu'il ressemblait à Bob Dylan. Son charme, son autorité naturelle l'avait imposé dans toute la vallée. On respectait le chef, on aimait l'homme. Avec lui, ses paysans, ses artisans, ses commerçants allaient devenir des combattants, des résistants, des moudjahidines. Au début, tout manquait et Massoud formait lui-même les villageois.
Les téléspectateurs occidentaux doivent se demander comment une petite vallée comme la vôtre, avec 5000 hommes mais seulement 700 armes, arrive à tenir en échec l'armée réputée la plus puissante du monde, l'armée rouge.
La première chose, ça, c'est la l'aide de Dieu. Et la deuxième chose, ça, c'est que nous, Moudjahid, tous on sont très courageux. Oui. Et ils sont, maintenant, pour la guerre, ils sont complets. Comment on dit en français, complet.
Ils sont prêts.
Ils sont prêts pour commencer la guerre ou pour continuer la guerre.
La voix de Massoud. Massoud parlait français, Christophe de Pontilly.
Il avait appris le français au lycée de Kaboul, au lycée français de Kaboul, et c'était Clal. Il rêvait d'être architecte, donc bâtisseur, constructeur de maisons. Il rêvait de la paix.
Vous l'avez donc rencontré. Pourquoi vous l'avez rencontré en 81? Qu'est-ce que vous étiez allé faire là-bas?
Avec Jérôme Bonny, nous avions déjà envie d'aller faire un reportage en Afghanistan parce que nous trouvions que depuis le début de la présence des Soviétiques en Afghanistan, c'est-à-dire depuis 79, décembre 79, il y avait eu quelques reportages sur la guerre, mais très peu sur les hommes, sur qui étaient les hommes, qui étaient les Afghans. En fait, on avait montré des actions, des embuscades contre les Russes, mais au bout d'un moment, dans les médias, ça s'était essoufflé. Et nous avions envie de montrer avec Jérôme qui étaient justement ceux qui osaient résister aux Soviétiques, qui étaient ces paysans afghans. Et nous sommes partis comme ça, clandestinement, pour rejoindre cette vallée du Panjshir, cette très belle vallée. Et nous avons rencontré Massoud qui nous a fascinés, comme il a fasciné les hommes qui l'entouraient. Et qui formait lui-même d'ailleurs les groupes de paysans pour tenir tête à tête à cette armée soviétique qui était un monstre à cette époque.
Est-ce qu'on peut dire quelle était la situation historique en 81? L'Union soviétique était entrée en Afghanistan en 79.
En décembre 79, il y avait eu un coup d'État en avril 78, communiste, les troupes soviétiques sont intervenues à la demande de Brejnev. D'ailleurs, dans l'état-major soviétique, il y avait une opposition, on l'a su après. Et ils sont installés en Afghanistan, et soi-disant pour aider à apporter le progrès dans l'Afghanistan, qui était considéré comme non développé par les jeunes communistes afghans. Et en fait, ils se sont mis à bombarder. Ils sont mis à faire des opérations terribles, et 10 années de présence soviétique ont entraîné plus d'un million de morts afghans et une déstructuration totale de la société afghane. 5 millions de réfugiés, déjà des réfugiés. On ne cesse de parler de réfugiés afghans depuis 20 ans. Eh bien, face à ce déluge de violence, de feu, ces avions supersoniques qui arrivaient sur les villages, alors que les paysans, souvent, pensaient que la terre était plate en Afghanistan. Lorsqu'ils voyaient le feu tomber sur leur village, ils croyaient que c'était la foudre de Dieu qui leur tombait dessus. Et encore maintenant, d'ailleurs, je pense que les journalistes qui voient arriver des pauvres Afghans qui viennent au Pakistan, il faut qu'ils se mettent à leur place, et dans leur tête, ils ont des hommes qui n'ont jamais vu le World Trade Center. Ils n'ont pas vu ces images. Ils n'ont vu aucune de nos images. Les Américains, ce sont des Martiens. Ils ne savent pas ce que c'est, les Américains. J'ai vu encore hier soir à la télévision des images comme ça d'Afghans rieurs, parce qu'ils sont très rieurs, les Afghans. Et puis regarder ces caméras qui étaient braquées vers eux, et ils comprenaient pas trop, quoi. On leur a juste dit qu'il y allait avoir à nouveau des bombardements, mais hélas, ils en sont habitués. Et ils fuient leur village. Donc pendant 10 ans de présence soviétique, il y a eu cette présence soviétique, et de 10 ans de guerre, de 79 à 89, il y a eu cette présence soviétique. Et derrière ça, il y a eu un jeu très malsain qui a été joué par le Pakistan. Le Pakistan qui était obsédé par une chose, qui a toujours été obsédé par une chose, c'est sa crainte d'un conflit avec l'Inde. Et pour garantir ce que les militaires appellent sa profondeur stratégique, ils ont toujours voulu contrôler l'Afghanistan. Et ils ont voulu avoir quelqu'un à leur botte en Afghanistan. Et cet homme, ils l'ont trouvé, un homme qui voulait le pouvoir, qui était sans foi ni loi, qui s'appelle Gulbuddin Hekmatyar, dont on a parlé tout à l'heure. Et les Américains qui, eux, la CIA, je dis pas les Américains, c'est pas le peuple américain, bien sûr.
Oui, il faut faire attention à ça.
J'ai beaucoup de compassion, et tout à l'heure, dans le répondeur, il y avait un homme qui a perdu son fils à New York, et qui hurlait sa douleur et son indignation. En ayant écouté votre émission où vous aviez parlé de la responsabilité des Américains, il a cru que vous attaquiez les Américains et vous étiez du côté des terroristes. Non, ce pauvre homme, ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est que ni le peuple afghan, ni le peuple américain ne sont coupables de ce qu'il se passe. Mais les services de renseignement et la CIA américaine portent une très lourde responsabilité dans l'affaire. Ils ont donc soutenu ce Gulbuddin Hekmatyar pendant 12 ans, en pensant que c'était la meilleure carte à jouer pour faire mal aux Soviétiques. Il s'agissait d'embourber les Soviétiques dans ce territoire d'Afghanistan. Et hélas, ils ont fait un mauvais choix. Ils ont fait un très très mauvais choix. Pourquoi n'ont-ils pas choisi Massoud ? Parce que leur conseiller pakistanais, sur le terrain, leur disait que Massoud n'était pas important.
Il est tadjik aussi.
Il est tadjik, il est du nord. Gulbuddin Hekmatyar est pashtoun, de l'ethnie du sud, qui avait toujours eu le pouvoir en Afghanistan. D'ailleurs, les talibans sont surtout constitués de pashtouns. Et en fait, ce Gulbuddin Hekmatyar a joué un rôle extrêmement néfaste après coup. Il a peu attaqué les Russes, il a gardé ses armes. Et lorsque les Moudjahidines se sont enfin emparés de Kaboul, c'est Massoud qui a fait tomber Kaboul sans combattre, en la faisant tomber de l'intérieur, en s'alliant avec un chef de milice ouzbek. Ça lui a été reproché, mais au moins c'était de l'intelligence de la part de Massoud. C'était éviter que la guerre soit mise dans Kaboul. Mais hélas, 5 semaines après la présence de Massoud et de ses hommes dans Kaboul, Gulbuddin Hekmatyar a fait pilonner la ville à la roquette et aux obus.
Alors on est en train de parler de Pashtoun, d'Ouzbek, de Tadjik. Nous, on a les Français, nous habitons un État-nation accompli, hein, et on pense que voilà, ben tout le monde est Français en France et que tout le monde est Afghan en Afghanistan. Or, c'est pas le cas. Il y a des divisions et des différences importantes dans ce pays, dans cet État qui est très jeune. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée? Pas forcément facile, mais une idée des différentes communautés qui peuplent l'Afghanistan.
Oui, c'est vrai, il y a deux choses dans l'Afghanistan qui se passent. Donc, tous les Afghans, on les appelle Afghans entre nous. C'est-à-dire, avant l'invasion soviétique, avant la guerre, nous, on ne savait pas qui est quoi, qui est de quelle origine. Mais ça, c'est venu par la suite, avec la guerre, avec toute la manipulation, avec tout ce que les Soviétiques ont commencé à diviser les Afghans, et ensuite, les Pakistanais ont fait la même chose. Bon. Bon, pour résumer, il y a une bonne quinzaine d'ethnies en Afghanistan. Et les principaux sont les Pashtuns, les Tadjiks, les Hazaras, les Ouzbeks, les Turkmènes, les Kirghizes, les Baloutches, les Nouristanis, bon, les quelques-uns. Ensuite, il y a d'autres minorités aussi.
Chacun ayant sa langue.
Il y a quelques langues, c'est vrai. Il y a à peu près 15 à 20 langues et dialectes variés en Afghanistan. Mais l'État afghan, qui a été constitué en 1747, et que depuis, beaucoup de gens se sont mélangés. Il n'y a pas de province purement pachtoune, de province purement tadjik. Vous allez dans le nord, vous trouvez des villages mélangés. Dans le Badakhshan, qui est dans le nord-est, il y a des villages baloutches. Il y a des villages, plusieurs villages baloutches. Pachtoune aussi, dans le Tahar. Et ainsi de suite. Dans le sud, qu'on imagine totalement pachtoune, il y a des régions totalement persanophones. Dans la province de Paktia, il y a des persanophones. À Razni, il y a des persanophones. À Jalalabad, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de véritable querelle ethnique en Afghanistan. Par contre, le Pakistan, là, il y a un problème. Les Panjabis sont purement des Panjabis. Les Pashtuns sont des Pashtuns. Il n'y a pas de mélange. Mais ce processus a été, comment dire, incité, provoqué avec la guerre et avec la manipulation des services secrets qui ont dit, cette ethnie-là, par exemple, les Pashtuns sont majoritaires, alors qu'il n'y a pas de majorité en Afghanistan. L'Afghanistan est composé de différentes minorités. Si vous prenez, il n'y a pas un groupe ethnique qui puisse contrôler tout l'Afghanistan, qui puisse avoir la majorité à lui seul. Même les Pashtuns, il y a deux courants. C'est ça, la famille Durrani, c'est-à-dire ceux qui avaient été toujours au pouvoir en Afghanistan pendant 2 siècles, et les Ghilzai, qui sont les plus nombreux parmi les Pashtuns. Donc c'est trop compliqué.
Oui.
Donc, tout ça, ça a été... Mais par contre, on se disait afghan, et en plus il y a des mélanges, il y a des, par exemple, personne n'est purement tadjik ou pashtoun. Il y a eu des mariages, donc les uns, ils ont un mère pashtoun, le père est tadjik, ainsi de suite. Tout ça est vraiment très complexe et en même temps très simple, en fait. Il n'y a pas de querelle véritable. Mm-hmm. Mais par contre, les services ont incité. Les soviétiques ont envoyé les troupes, milices de général ouzbek, dans le Kandahar, qui faisait des atrocités. Donc les Pashtuns considéraient que les Ouzbeks sont des ennemis des Pashtuns. Ça, c'était l'époque soviétique. Les talibans et les Pakistanais font l'inverse. Ce sont des Kandaris qui vont faire des pillages dans le nord. Et on favorise. Et général Musharraf fait des déclarations très claires en disant que je soutiens les Pashtuns en Afghanistan parce que c'est dans l'intérêt national du Pakistan. Donc ça provoque la guerre.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est un pays très pauvre.
C'est vrai, un pays
parmi les pays les plus pauvres du monde.
Qui est très pauvre, mais qui n'est pas endetté comme la plupart des pays de tiers-monde. C'est un pays qui vit de l'agriculture, de la paysannerie, de l'élevage. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de lourde industrie. Mais les gens, ils sont capables de vivre, se débrouiller, de travailler dans les champs. Donc on ne sait pas comment dire la pauvreté. Donc je considère qu'il y a beaucoup... Les Afghans qui sont dans les villages, qui sont capables de vivre, avoir à manger, à travailler, parce que les gens sont des travailleurs, alors que je trouve des gens qui sont beaucoup plus dans la misère, dans les rues, même à Paris par exemple.
Ouais,
ouais. Enfin, vous voyez, mais aussi, c'est très difficile, mais il manque d'infrastructures.
Ouais. Il y a aussi, c'est une société qui est riche et fraternelle, c'est-à-dire que les vieux vivent dans les villages avec la communauté des autres. Et ça avait choqué beaucoup Mirabouddine lorsqu'il est venu en France, c'est de voir qu'on avait des maisons de retraite où toutes les personnes âgées étaient concentrées, que les personnes âgées ne servaient
ça,
pas
ça
à
choque
vivre.
Beaucoup de gens dans le monde. Ça.
Voilà, c'est ça. Mais
les Africains
enfin,
sont toujours choqués.
Dans l'Afghanistan et dans ce monde rural, il y avait une dignité encore à vivre et une manière chaleureuse de vivre.
Vallée du Panchir, juin 1984, 100 km de ruines. Décidé d'en finir avec Massoud, les généraux soviétiques avaient utilisé les grands moyens. 15 jours de suite, sans interruption, leurs bombardiers avaient lâché là des tonnes de bombes. Informé par ses espions, 24 heures avant le déclenchement de l'opération, Massoud avait fait évacuer toute la population. Il n'y avait eu aucune victime, un miracle. Ces images maladroites, à nouveau tournées en Super 8, furent les seules à témoigner de l'ampleur des destructions. Comme on était loin de la guerre spectacle. Et ses compagnons dans les montagnes. Cachés dans les grottes qui surplombaient leur village détruit, ils ne cédaient pas et continuaient de croire en la victoire. Dans ce combat inégal, Dieu semblait leur seul allié. La CIA n'avait pas choisi leur camp. Massoud allait pourtant réussir l'impossible, fédérer les groupes du nord-est de l'Afghanistan. Il allait devenir une légende, celle du commandant Massoud, celui qu'on surnommera le lion du Panchir.
Extrait du film de Christophe de Pomfilly, Massoud de l'Afghan. Je vous rappelle que vous allez pouvoir voir ce film jeudi, c'est-à-dire demain soir, non après-demain soir, sur Arte et à partir de demain, mercredi, au 3 Luxembourg, à Paris. Christophe de Pomfilly, ça fait 20 ans donc que vous avez rencontré pour la première fois Massoud. Quel homme il était ? On le voit dans votre film, dans vos films, parce que vous avez tourné combien sur lui ?
En Afghanistan, j'en ai tourné 11.
Ouais. On voit un type assez secret, très pudique, avec une certaine rigidité.
Rigidité, je dirais pas, mais pudique, je pense que c'est le propre des Afghans. Les Afghans n'expriment pas facilement leur intimité et leur tristesse. J'avais essayé d'ailleurs de faire parler Massoud sur la disparition de ses amis, puisque tout au long de ses 20 ans de guerre, Dieu sait s'il a perdu des hommes et des femmes qui lui étaient chers. C'était impossible. Il ne parlait pas, il avait toujours un grand sourire pour esquisser sa pudeur sur sa tristesse. Je pense que ce qui était très fort chez Massoud, c'est qu'il était tellement en harmonie avec ses engagements, avec ses actes, qu'il était aimé de ses hommes. Il n'a jamais trahi, en fait. C'est un homme qui s'est trompé parfois. Mais d'ailleurs, je pense qu'après l'épisode tragique de Kaboul, il avait appris. Il avait appris combien la paix, la liberté étaient précieuses. Il avait appris qu'un jour, il faudrait que l'Afghanistan se démocratise. Et il l'avait dit. Et à Paris, lorsqu'il a été reçu, j'étais assez amusé.
Il n'a pas été reçu d'une manière très officielle.
Il a été assez mal reçu.
Assez mal reçu, on va dire, comme ça. T'en as vu le dernier.
Mais Hubert Védrine,
il a été reçu finalement par le...
Hubert Védrine.
L'a pas reçu officiellement.
Oui, il a été reçu, oui, non officiellement. Voilà. Il a été invité par la Nicole Fontaine du Parlement européen. Et c'est tout. Mais ce qui était frappant, c'était de voir, par exemple, Hubert Védrine, qui pensait que moi, comme quelques autres qui avaient parlé de Massoud, avaient idéalisé cet homme. Eh bien, lorsqu'il l'a eu en face de lui, il a été très impressionné par sa dimension, par sa densité. Mmh. Et par sa grande humilité. On le sait bien, lorsqu'on fréquente les êtres humains et qu'on y est attentif, l'humilité est toujours un signe de force et de richesse.
Sur le répondeur de la basse égyptienne, on entendait des voix jeunes pour qui Massoud est un héros. Quand on vous entend, on entend le son du héros un peu. On compare au Che, on l'a comparé
bien,
à Marcos.
J'aime pas ce
mot. Je sais bien, mais c'est la statue oui. La statue qui va lui être faite. À quoi il croyait? Quelle était sa culture? Ses convictions personnelles? Il était musulman, évidemment. Est-ce qu'il était islamiste? Est-ce qu'on peut dire que Massoud était un islamiste, même si c'était un islamiste modéré? C'est important de nous parler de ça, je crois, en ce moment.
Ben, je peux dire qu'il était musulman, ça c'est sûr. Il faut savoir qu'il avait commencé son activité, politique, quand il avait 17 ans, qu'il avait rejoint un mouvement politique, qui était un mouvement anticommuniste. À l'époque du président Daoud, un petit peu aussi à l'époque du roi, il y avait beaucoup d'influence communiste en Afghanistan. Tous les cadres afghans qui allaient pour être formés en Union soviétique, ils revenaient forcément avec des idées communistes. Et à un moment donné, il y a eu un cercle d'intellectuels afghans au sein de l'université de Kaboul qui voulaient combattre cette influence qui était en train de grandir en Afghanistan. Et Massoud a adhéré à ce mouvement qui était par la suite qu'on a considéré comme islamique ou islamiste, je ne sais pas comment on peut appeler, et que forcément, parce que l'islam, ça fait partie de la culture afghane, mais l'islamisme de Massoud, c'était pas islamisme terroriste, c'était en accord avec les traditions d'Afghanistan, mais aussi avec les traditions modernes, du temps moderne. Donc c'est vrai que souvent, dans les milieux occidentaux, on a dit que Massoud est un islamiste fondamentaliste, et dans les milieux pakistanais et saoudiens, on disait que c'est l'homme des Français parce qu'il était au lycée français de Kaboul. Donc ce qui fait que personne ne venait à son secours. Et nous, par exemple, je me rappelle bien, quand les Américains ont donné leur Stinger,
les Pakistanais... Expliquez ce que c'était ces Stingers,
des missiles solaires. Oui. C'était des missiles antiaériens qui ont été très efficaces contre l'aviation soviétique. Quand les Américains donnaient les Stingers à la résistance afghane, ça passait par les Pakistanais, évidemment, et les Pakistanais disaient aux Américains, on peut pas donner ça au commandant Massoud parce que lui, il n'est pas sérieux, il est l'homme des Français, il est l'homme des Russes, donc il faut le donner aux autres qui sont beaucoup plus proches du Pakistan. Et voilà, donc, alors que dans le milieu occidental, comme le commandant Massoud était dans un mouvement islamique, Jamiat islamique d'Afghanistan, avec le professeur Rabbani, donc on s'est dit qu'il faut faire attention, lui il est fondamentaliste comme les autres. Alors que lui, il a essayé de garder le juste milieu. Il a été musulman, parce qu'on ne peut pas être autrement en Afghanistan, mais il n'a pas été extrémiste dans le sens que nous connaissons aujourd'hui, avec le terrorisme.
Lorsqu'il a partagé le pouvoir à partir de 1992, quelle était son influence sur la vie quotidienne, sur les mœurs, sur sa façon de voir les choses? Christophe de Pompilly.
En fait, je crois que ça a été une des erreurs de Massoud, c'est de ne pas avoir voulu le pouvoir. Il a été été ministre de la Défense, mais il a laissé le pouvoir lorsqu'il est entré à Kaboul au leader des partis politiques de la résistance afghane, hélas. Donc il est resté en train de faire la guerre pour essayer d'amener la paix. Mais par contre, il était extrêmement révolté par certaines attitudes de ce groupe islamique qui voulait absolument empêcher les femmes de travailler déjà à cette époque. Je me souviens d'avoir été présent lorsqu'il avait été extrêmement dur avec une délégation d'hommes, de musulmans qui étaient venus le voir pour lui demander de faire remplacer la présentatrice du journal télévisé de la télévision de Kaboul. Donc c'était une femme journaliste afghane, de la faire remplacer par un homme, et un homme barbu. Et Massoud avait dit qu'il en était hors de question que les femmes en Afghanistan, après 10 années de guerre, avaient vraiment un rôle très important à jouer. Et il y avait plus de 50% des postes de l'administration afghane qui étaient occupés par des femmes à Kaboul à cette époque-là. Et Massoud était très très attentif à cela. Il savait que ça allait être long pour que dans les campagnes, les femmes puissent occuper les mêmes fonctions que les hommes. Ça allait être très long. Mais enfin, en France, les femmes n'ont le droit de vote que depuis quelques années, même pas.
1948.
1947, oui. Donc, c'était très lent. Mais son esprit était extrêmement clair, lucide et modéré en cela. Et sa femme, d'ailleurs, l'a confirmé lorsqu'une délégation de femmes françaises et afghanes sont allées la rencontrer à Douchanbé l'année dernière. Elles ont été très impressionnées par la qualité d'ouverture de cette femme qui parlait aussi de son mari. Massoud avait fini par repousser Ekmatyar, que les Pakistanais laissèrent tomber au profit des talibans. En 95, les hommes de Massoud tiraient sur les quartiers ouest de Kaboul, où ces talibans tentaient de progresser. Massoud n'avait pas su prendre le pouvoir. Il ne mettrait pas fin à la guerre. Prisonnier d'elle, il allait être dépassé par les jeux politiques des uns et des autres. J'ai, depuis, en horreur, ses gestes de victoire sur fond de ruines. En septembre 1996, pour éviter un nouveau bain de sang, Massoud a abandonné Kaboul. Les talibans ont pris le contrôle de 20 des 30 provinces du pays. Peu à peu, leur vrai visage est apparu. La poésie, la musique, le chant des oiseaux, jouer au cerf-volant, la télévision, la radio, tout est interdit, sauf prier. Les femmes n'ont plus le droit à l'éducation, ni au travail, ni même aux soins. Une nouvelle dictature était née, financée par les Pakistanais, les Saoudiens et les Américains. Finalement, en Afghanistan, ceux-ci n'auront soutenu que les extrémistes. Une folie. Malgré cette guerre apparemment civile, un projet de gazoduc se précise. Il doit permettre d'amener le gaz du Turkménistan jusqu'au port pakistanais via l'Afghanistan. Deux compagnies américano-saoudiennes, Unocal et Delta, sont à Kaboul, traitent avec les talibans et leur apportent des dollars.
À votre livre « Massoud l'Afghan », Christophe de Pomfilly, il y a une préface d'Olivier Roy, qui est un chercheur et qui connaît bien, très bien, cette région, et qui parle du média circus ou une chose comme ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, ils tous sont en train de tâtonner un peu comme des aveugles avec une canne blanche comme ça, en espérant trouver un écho, quelque chose qui nous donnerait raison et qui nous apporterait un peu de vérité. Et on sent bien que quand on aussi aveugle qu'on puisse être en ce moment, quand on dit le mot Unocal, quand on parle de gazoduc, quand on parle de pétrole dans cette région, on sent bien que là, il y a quelque chose qui résonne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, tous les deux, cette histoire, le rôle des États-Unis dans cette région? Parce que c'est quand même ça dont il est question largement aujourd'hui.
Après 12 ans de soutien au mouvement extrémiste Hezbi-Islami, dirigé par Gulbuddin Ekmatyar, donc les plus fondamentalistes qui se battaient soi-disant contre les soviétiques, mais qui pensaient surtout à leur propre pouvoir et qui ont mis le feu à Kaboul en 92 contre Massoud. Après, les Américains ont attendu de savoir ce qui allait se passer à Kaboul. Personne, aucun occidentaux n'est venu aider les Afghans au moment où ils sont entrés dans Kaboul. Personne n'est venu les aider pour désarmer tous ces hommes armés qui étaient dans les villes, dans les rues, dans ces villes libérées. Les prisons avaient été ouvertes, les stocks d'armes distribués à tout le monde, il y avait une situation d'anarchie totale, mais ils n'avaient aucune aide de l'extérieur. Et donc ils se sont enlisés dans une guerre et qui a permis après l'émergence d'un mouvement, le mouvement des talibans, né dans les madrassas, les écoles coraniques au Pakistan, qui étaient des personnes religieuses, souvent des pashtounes, et qui ont considéré que les moudjahidines, tous ces chefs de la résistance, de l'ancienne résistance aux soviétiques, ne savaient faire que la guerre, n'amenaient que la guerre en Afghanistan. Et ils ont commencé à entrer en Afghanistan, dans le sud, et à désarmer des gens. Et là, ça a été l'esquisse de l'émergence de ce mouvement des talibans qui a surpris absolument tout le monde. Les spécialistes, même Olivier Roy, ne savait pas ce que c'était que les talibans. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, les services secrets pakistanais, qui les connaissaient bien puisqu'ils les abritaient sur leur territoire, ont commencé à leur apporter une logistique militaire en se disant que finalement c'était une force pour peut-être arriver à Kaboul et peut-être arriver à leur noir dessein qui était un contrôle vraiment de l'Afghanistan. Et à ce moment-là, ils ont commencé à les soutenir d'une manière très forte et les Américains ont suivi un peu, quoi. Alors Inokal et Delta, c'était un groupe, une société américano-saoudienne, avait le projet de construire un gazoduc pour amener les réserves du gaz naturel depuis le Turkménistan jusqu'au port pakistanais. Il y avait un projet et pour faire des études de faisabilité, l'aide aussi d'une compagnie argentine, la Bridas, cette compagnie a donné beaucoup d'argent aux talibans parce qu'on leur avait dit que c'était ceux qui étaient les plus fiables pour amener la paix en Afghanistan. Mais le problème, c'est qu'avec ces dollars, avec cet argent, parfois des sommes qui n'étaient pas forcément excessives, mais qui pour l'Afghanistan étaient des fortunes gigantesques, ces talibans ont acheté des tas de moudjahidines dans des tas de régions d'Afghanistan qui sont mis à trahir leur chef et ils ont pu, comme ça, prendre le contrôle d'une grande partie de l'Afghanistan. Et en 96, Massoud a abandonné Kaboul, ne voulant pas se battre contre les talibans, ne voulant pas se battre encore pour continuer cette tragédie, et il s'est replié dans le Panjshir et il a commencé à se battre contre eux. Mais autour des talibans, il y avait, et depuis le début du conflit, une présence de miliciens arabes. Et là, il faut faire très attention. C'est pas non plus, comme les Afghans ne sont pas tous des terroristes, comme les talibans ne sont pas forcément tous des terroristes et des extrémistes, comme les Arabes ne sont pas tous des terroristes, il y avait des groupes extrémistes dans lesquels Oussama Ben Laden était présent, mais on voyait des Algériens, des Palestiniens, des Soudanais, des Yéménites, qui venaient s'entraîner là, qui venaient s'entraîner à la guérilla urbaine. Ils ont été présents, ils étaient souvent détestés des Afghans. Mais ils ont fait un pacte avec ce Mollah Omar, le groupe extrémiste des talibans, qui eux sont allés vers une espèce de folie complètement illuminée de cette recherche d'un islam purifié qui n'a rien à voir avec l'islam de la plupart des musulmans pacifiques à travers ce monde.
Qui a tué Massoud ?
On ne sait pas, en tous les cas je pense des hommes ignorants, des hommes aveuglés. Il y a une Française, Françoise Cause, qui les a photographiés, qui était avec eux parce qu'ils se faisaient passer pour des journalistes. Mm-hmm. Ils étaient très éduqués, ils étaient très aimables, ils parlaient le français. Mais bon, lorsqu'on voit la lecture des événements, on a tendance à penser, peut-être que c'est le cas, mais moi je ne suis pas dans les services de renseignement, en tous les cas, peut-être que Massoud est la première victime de la série d'attentats suicides qui ont été lancés contre notre monde libre de liberté. Je pense que s'il y avait bien un programme, en tous les cas, c'est éliminer Massoud en premier, c'était important avant de taper les Américains qui allaient se lancer dans des opérations de représailles, car ça allait amener une opacité sur l'Afghanistan qui fait que les Américains maintenant n'ont pas l'interlocuteur facile en Afghanistan. Et comme ils n'ont pas une très bonne connaissance du terrain, eu égard aux erreurs qu'ils ont faites dans le passé, eh bien, ils doivent chercher actuellement à savoir comment cibler leur riposte. Et c'est là où, par contre, je suis très surpris que tous ces Français qui sont allés en Afghanistan et qui connaissent l'Afghanistan n'aient pas du tout été consultés jusqu'à présent par les Américains.
Et c'est votre point de vue, Mère Abonine, sur... Bon, on sait que c'est deux kamikazes, enfin, qui ont tué...
Oui, comme dans les avions.
Mais qui a commandé... Oui, mais qui est derrière? Qui a commandé, selon vous?
Ben, il n'y a pas de doute pour nous, en tout cas. Enfin, l'enquête est en cours pour l'instant, l'enquête n'a pas encore terminé, mais il n'y a pas de doute que c'est le même cercle terroriste.
Et ce cercle terroriste, c'est qui, c'est quoi?
C'est l'organisation d'Oussama Ben Laden, avec le soutien sur place des talibans et les services secrets pakistanais, parce qu'il faut savoir qu'il s'agit d'un serpent à trois têtes. Et on ne parle jamais, rarement, du Pakistan. Les trois fonctionnent en même temps. L'organisation d'Oussama Ben Laden, ce qu'on appelle Al-Qaïda, les talibans, et les services secrets pakistanais. Ils travaillent parfaitement en coordination. Aujourd'hui, on a l'impression que les Américains veulent s'en prendre aux deux têtes de ce serpent. Les talibans peut-être, Osama Ben Laden en deuxième lieu, et peut-être uniquement la personne d'Osama Ben Laden, avec certainement beaucoup de victimes civiles afghanes, mais on ne parle pas tout de suite du Pakistan. Alors que la clé de tout ça est au Pakistan. La racine de ce mal est au Pakistan, auprès des services secrets pakistanais. Il n'y a que des branches en Afghanistan.
Y a-t-il une relève à Massoud?
Je pense qu'il y a, il y a toute cette population qui rêve de paix en Afghanistan. Il y a tous les hommes et femmes, toutes les personnes qui ont combattu auprès de Massoud, qui sont là.
Ils représentent quoi, 5%, 10%?
Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. Ça, c'est une représentation. Oui, vous avez raison de dire ça parce qu'on nous a dit ça. Massoud ne contrôle que 5% du territoire. Mais en fait, la grande majorité des Afghans, dans les campagnes, dans les provinces d'Afghanistan, ne rêvent que d'une chose, c'est la paix. Mais ils ne savaient pas comment se battre contre les extrémistes du mouvement taliban qui s'étaient installés à Kandahar et à Kaboul. Ils ne savaient pas. Et les Afghans sont vraiment des personnes qui sont victimes de toutes ces guerres. Et le problème en Afghanistan, et déjà pourquoi Massoud n'avait pas pris Kaboul plus tôt, c'est qu'il n'avait pas, il n'arrivait pas à trouver les hommes pour constituer un gouvernement. Et ça, c'est la fragilité de l'Afghanistan. L'Afghanistan doit être aidé par des gens qui savent, qui connaissent les Afghans, pour les choisir, pour les bien les encadrer et bien les assister. J'espère que c'est ce qui se passera. J'espère que ce n'est pas l'inverse qui va se passer.
Je vous remercie tous les deux. Ça a été vraiment très très court. On aurait aimé vous entendre plus longtemps. Mehrabuddin Mastan, vous êtes chargé d'affaires à l'ambassade d'Afghanistan. Christophe de Pontfilly, votre film, on le verra jeudi à 20h50 sur Arte. Et je le répète, je le rappelle, à partir de demain, mercredi, au 3 Luxembourg. Et puis, on peut trouver votre bouquin, Massoud l'Afghan. C'est vos textes et des extraits, des images du film. Et puis, un autre livre que vous avez écrit sur les vies clandestines, c'est-à-dire tous ces Français, tous ces étrangers qui se sont engagés auprès de Massoud. Merci à tous. Technique aujourd'hui, Pascal Baldassari et Clotilde Thomas, assistante Joël Levert, Antoine Dabrowski et Christophe Humbert. Le répondeur de la base, si j'y suis, 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Il se peut que demain, nous consacrions toute l'heure à vos messages. On va voir. Réalisation Bruno Carpentier et Antoine Ciao Réclame.